France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un État condamné pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la Suisse et c'est une première. La France, elle, échappe à la sanction, nous verrons pourquoi et nous verrons également ce que ce jugement peut changer à l'avenir. La météo, ces dernières heures, ce sont ces orages extrêmement nombreux. Hier soir en France, on va vous expliquer. À suivre encore, le réalisateur Philippe Lioret est visé par des accusations de baiser forcé. Son attitude sur les castings pose question, nous verrons cela. Nous serons en Italie. Également. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Rome. Bruno, l'image du groupe Armani est entachée.
Oui, Armani, grand nom du luxe, mais conditions de travail parfois peu reluisantes.
A tout de suite pour vos précisions. Et puis les jeunes Français sont de plus en plus éloignés de la lecture. Bonjour Amélie Perrier.
Bonjour Jérôme.
Les livres remplacés par les écrans.
Un jeune sur cinq n'ouvre jamais un livre pour le plaisir. Effectivement, les ados passent 10 fois plus de temps avec leur téléphone.
Vos explications dans quelques minutes. Et puis on en reparlera à 13h50 parce que ce sera le sujet de C'est la France. En tous les cas, l'étonnant succès des boîtes à livres. Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. À partir de 13h30, la photo de l'opinion à 2 mois des élections européennes. Pourquoi le Rassemblement National est-il annoncé si haut? L'entrée en campagne d'Emmanuel Macron peut-elle changer la donne? J'attends vos questions. Pour notre invité, Jean-Daniel Lévy de l'entreprise de sondage Harris Interactive. Vous nous appelez au 01 45 24 7000. Et puis juste avant 14h, notre carte blanche au chanteur Raphaël qui aujourd'hui choisit Jean-Louis Murat. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Les lois et la justice qui veillent à leur respect peuvent-elles permettre de lutter contre le changement climatique? Nous verrons dans un instant que les stages citoyenneté se développent en France pour ceux qui portent atteinte à l'environnement. Mais avant cela, direction Strasbourg, où siège la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour qui a rendu une décision historique ce matin. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour Inter. La Cour, Rémi, condamne pour la première fois un État, en l'occurrence la Suisse, pour violation de la Convention des droits de l'homme en lien avec le réchauffement.
Oui, la Suisse était attaquée par 4 dames âgées de plus de 70 ans et leur association, les Aînés pour le Climat, qui avaient saisi l'administration, la justice dans leur pays, épuisé tous les recours et qui obtiennent ici finalement aujourd'hui la condamnation de l'État suisse, dont la CEDH pointe, je cite, les manquements à réduire les émissions de carbone. Anne Marer, coprésidente de l'association.
L'arrêt aujourd'hui est un arrêt historique. Et nous sommes vraiment très très heureuses d'avoir porté ceci jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, nous allons rester très attentives à ce que la Suisse mette en œuvre la décision. Merci beaucoup.
Voilà des aînés pour le climat acclamés ici à Strasbourg par les militants. Greta Thunberg notamment a fait le déplacement pour saluer ce combat débuté en Suisse il y a 8 ans.
Alors, la Suisse condamnée, Rémi, mais pas la France qui était elle aussi poursuivie. Pour quelle raison?
Eh bien, pour des questions de procédure, Jérôme, l'État français était attaqué dans une autre affaire par l'ancien maire de Grande-Synthe, Damien Carême. Il pointait des risques pour sa santé, le risque aussi de submersion dans sa ville du nord de la France. Il a été débouté car il est devenu député européen, n'habite plus sur place. Les 6 jeunes Portugais qui attaquaient leur État et 31 autres voient aussi leur requête rejetée. Ils n'avaient pas épuisé les voies de recours dans leur pays, le Portugal. C'est ce qu'explique l'avocate de Damien Carême, Corinne Lepage.
La Cour reste très sévère sur les règles de recevabilité. Les petits Portugais ne sont pas admis non plus parce que la Cour ne veut pas ouvrir la voie à l'action populaire, c'est-à-dire permettre à tout le monde, en fait, de pouvoir attaquer. Mais ce qu'il faut retenir de cette décision, c'est l'affirmation du principe que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire de droit de vivre dans un environnement sain, s'applique au climat et qu'en conséquence, ceux qui le défendent sont en droit d'agir en justice.
Et c'est donc le droit à l'environnement comme droit humain qui est renforcé aujourd'hui par cette décision, estime l'avocate.
Je reviens à la Suisse, Rémi, un État condamné, c'est donc une première. Qu'est-ce que ça change ?
Eh bien, c'est un débat qui va occuper les spécialistes du droit de l'environnement dans les jours qui viennent. On l'imagine, Jérôme, il y a 300 pages d'arrêt à interpréter. Ce qui est sûr, c'est qu'une décision de la CEDH contraint les États du Conseil de l'Europe, qui sont signataires de la Convention européenne des droits humains. Elle pourra donc être invoquée dans les tribunaux de chacun de ses membres, et notamment en France.
Merci Rémi Brancato pour ces explications en direct de Strasbourg. Restons sur les lois qui protègent l'environnement dans notre pays. Ceux qui ne les respectent pas sont passibles de condamnation en justice. Mais il existe désormais une alternative. Ça s'appelle les stages de citoyenneté. Et dans le département de la Moselle, le premier s'est tenu hier à l'initiative du parquet de Metz, en association avec l'Office français de la biodiversité, c'est-à-dire la police de l'environnement, avec également l'association Lorraine Nature Environnement. Les stagiaires étaient tous volontaires, Julie Seignera, et ils avaient reconnu les faits.
Autour de la table, 7 stagiaires, agriculteurs, chefs d'entreprise, mais aussi des responsables d'associations comme Laurent Marquez, le président de club de foot de Dieuze.
On a commis une infraction, l'année dernière, en arrosant un terrain de foot en dehors de l'arrêté préfectoral qui avait été mis en place pendant la période sécheresse.
Laurent plaide l'erreur, mais l'épisode n'a pas été simple à vivre pour lui et ses bénévoles.
Oui, mais à culpa, ils sont pas venus le matin à 8h00 enlever les robots, et parce que ça déconne aussi. On se dit, mince, on s'investit dans la vie sociale, voilà. Maintenant, à côté de ça, je vais réveiller à ce qu'il n'y arrive rien et me mettre en phase aussi avec la municipalité.
Avec ce stage qui lui est facturé 150 €, il évite tout de même la casse tribunale et une amende qui aurait pu atteindre 7 500 €. Au programme donc de la journée, rappel de la loi, des enjeux climatiques, de la biodiversité le matin et l'après-midi, déplacement sur le terrain, dans la nature. Céline Moguen est chargée de mission pour Lorraine Nature Environnement.
C'est vraiment prendre conscience de la démultiplication des atteintes à l'environnement. Toutes ces petites atteintes, il y a des grosses aussi, hein, mais disons même ces petites atteintes mises bout à bout, eh bien ça dégrade énormément finalement notre environnement et nos paysages aussi.
Ces stages pourraient se tenir dorénavant 3 à 4 fois par an en Moselle.
Reportage France Bleu Lorraine. La fin de la tempête Pierrick qui a balayé la Bretagne et la Normandie ces dernières heures. Pas de gros dégâts et plus que 4 départements du Nord-Ouest en vigilance orange pour crue ou pour vague submersion. Il s'agit de l'Eure, de la Seine-Maritime, de la Somme et du Pas-de-Calais. Les rafales n'ont pas dépassé les 120 km/h la nuit dernière sur les côtes de la Manche. En revanche, là, l'activité a été exceptionnelle hier soir. Près de 25 000 décharges de foudre détectées partout en France en seulement 6 heures, des comptes réalisés par l'observatoire météo Kéronos. Le phénomène a été observé essentiellement dans le nord-est. 2800 décharges, par exemple, dans le seul département du Pas-de-Calais. Mais en Dordogne, on a aussi eu des témoignages de violentes chutes de grêle. C'était le cas à Fleurac. Le maire de la commune, Jean-Paul Bouet, a assisté à un épisode qui a duré une dizaine de minutes.
J'ai rarement vu, quel que soit l'âge, on a rarement vu grêler. C'est une tombée de la grêle de cette taille à la saison où nous sommes. Ça, c'est plutôt l'orage classique du mois de juillet ou du mois d'août après de fortes chaleurs. Là, on a affaire à de la grêle avec des grêlons qui vont jusqu'à, pratiquement 1 cm de diamètre. On avait un ciel menaçant, si je puis dire, mais c'était rien d'impressionnant au départ. Et puis l'orage a pris de l'intensité et apparemment a suivi quand même une certaine surface.
Le maire de Fleurac en Dordogne. Bonjour Olivier Proust.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos prévisionnistes à Météo France. Olivier, 25 000 décharges, hein, je l'ai dit hier soir en seulement 6 heures. Comment est-ce qu'on explique une telle quantité d'orage ?
Alors ces orages se sont développés à l'avant d'une perturbation. Vous avez parlé de Pierrick, effectivement. Oui. C'était une dépression qui a circulé au nord-ouest du pays et à l'avant de la perturbation associée avec des pluies qui ont progressé par l'Atlantique, eh bien on avait un air très chaud avec un vent de sud fort, très marqué, notamment dans l'est. Et donc cette masse d'air très chaude a été déstabilisée par l'arrivée de cette perturbation. Et donc c'est assez typique en fin de journée au maximum de température à la fin de la journée, juste à l'avant de notre front perturbé sur l'Atlantique, et ben on a eu le développement de ces orages, un profil de masse d'air propice à des phénomènes violents que décrivait le maire. Il a tout à fait raison, ouais. C'est des phénomènes estivaux habituellement.
Bah oui, c'est un peu surprenant au mois d'avril.
C'est caractéristique. Alors c'est pas surprenant, ça. Enfin, bien sûr, c'est surprenant toujours un tel orage, mais c'est déjà arrivé. C'est la deuxième journée la plus foudroyée à l'échelle du territoire métropolitain après le 25 avril 2011. C'est vrai que c'est assez tôt, mais c'est loin derrière une journée de mars où on avait dépassé autant de décharges. Et puis, je veux revenir sur sur les phénomènes associés. On a eu de fortes bourrasques.
Oui.
Le maire décrivait de fortes grêles. C'est une masse d'air extrêmement humide, chaude dans les basses couches, déstabilisée par un air froid qui circule très vite au-dessus avec un effet coup de poing qui va fabriquer de très violents nuages d'orage et qui vont, avec les profils de vent dans l'atmosphère, parfois se décaler et devenir particulièrement violents à certains endroits. Donc effectivement, des phénomènes estivaux hier.
On a eu des témoignages qui nous venaient des Pyrénées, mais aussi des Ardennes. C'est fréquent d'avoir autant de régions touchées ?
Dans ce type de situation, oui, en effet, puisque toutes les régions qui étaient à l'avant de la perturbation en fin de journée avec une masse d'air réchauffée dans les premières couches, on avait le risque d'avoir ces orages. Et on a subi deux pulsations orageuses en quelque sorte, dont l'une qui est passée sur le Pas-de-Calais. Donc le Quéronos disait que c'était le département le plus touché. Effectivement, si on se limite aux impacts entre le nuage et le sol, on a eu près de 800 impacts juste sur ce département hier.
Est-ce qu'on peut faire un lien d'une manière ou d'une autre avec le réchauffement des températures et est-ce qu'on va aller vers davantage de séquences comme celle-ci dans les années qui viennent ?
Alors pour faire un orage, il faut de l'instabilité de la masse d'air, donc de l'air vraiment froid au-dessus d'un air chaud en basse couche. Si on a un réchauffement du climat, on va avoir plus facilement des températures plus chaudes en bas. Après, il reste à voir si ça va être encore assez instable. Donc le lien n'est pas forcément évident. En revanche, si une situation est propice au développement d'orages, elle va, avec le réchauffement, prendre plus facilement des masses d'air plus chaudes dans les basses couches, donc accepter plus d'humidité dans la fabrication du nuage, plus d'eau précipitable, donc des phénomènes plus violents associés. On peut avoir des précipitations plus facilement extrêmes.
Merci Olivier Proust d'avoir accepté de revenir sur cet épisode orageux exceptionnel d'hier soir. L'un de nos prévisionnistes à Météo France, c'est Élodie Calac qui sera avec nous dans une vingtaine de minutes pour les prévisions de l'après-midi.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Que s'est-il passé dimanche dans cet immeuble de la rue de Charonne ? Nous sommes dans l'est de Paris. Dimanche soir, les secours sont appelés sur place après une explosion. L'immeuble est en flammes. Bilan, 3 morts, 3 hommes, dont l'un s'est défenestré. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Rebondissement ce matin, la police privilégie désormais la piste criminelle.
Oui, car si au départ il s'agissait essentiellement d'un incendie grave ayant coûté la vie à 3 personnes, l'autopsie des corps laisse supposer un scénario bien plus complexe. Et ce qui vient changer la donne, c'est la découverte d'un pack de balles dans le crâne d'un des deux corps retrouvés dans l'appartement. 2 orifices correspondant à un tir d'arme à feu. Certains témoins du voisinage évoquent d'ailleurs des détonations entendues avant le déclenchement de l'incendie. Incendie survenu dimanche soir, vous l'avez dit, aux alentours de 20h après une explosion dans un appartement du 7e et avant-dernier étage de cet immeuble situé rue de Charonne dans le 11e arrondissement de Paris. Un 3e homme a tenté de fuir les flammes et rejoindre l'appartement du dessous par la façade, mais il est tombé et est décédé peu après sa chute. C'est donc la piste d'un double meurtre qui est désormais privilégié par les enquêteurs et le parquet de Paris, qui avait tout d'abord ouvert une enquête pour homicide involontaire, l'a désormais requalifié en homicide volontaire et destruction de l'appartement par incendie.
Merci Charlotte Piret pour ces informations. À Cherbourg, un impact de balle retrouvé hier soir sur le portail de la mosquée de la ville, un lieu déjà visé en novembre dernier par des menaces de mort et des tags racistes contre la communauté arabe. En Vendée, un homme a été arrêté hier, soupçonné lui d'avoir roué de coup un brancardier à l'hôpital de Chalens. Cela s'est produit samedi après-midi. Il trouvait que l'un de ses proches n'était pas soigné assez rapidement dans cet hôpital. Cet homme est en garde à vue. La libération de la parole dans le cinéma français est décidément une bombe à mèche lente. Après les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon accusés de viol sur mineur par l'actrice Judith Godrèche en février, ils s'en défendent. C'est au tour de Philippe Lioret d'être mis en cause. Philippe Lioret, 68 ans, est l'auteur d'une dizaine de longs métrages, dont Je vais bien, ne t'en fais pas, ou encore Welcome, et 10 actrices l'accusent aujourd'hui de gestes déplacés et de baisers forcés. Je précise qu'elles n'ont pas déposé plainte. Bonjour Élodie Guéguin.
Bonjour Jérôme.
Cellule Investigation de Radio France, c'est vous qui signez cette enquête avec Géraldine Allot. Élodie, c'est notamment l'attitude du réalisateur sur un casting en 2011 qui pose problème.
Oui, le casting du film Toutes nos envies, à un moment où Philippe Lioret est très en vogue, les comédiennes se bousculent pour passer les essais, citons Virginie Efira, Laetitia Castel, Marie Gillin, Judith Godrèche, j'en ai vu une cinquantaine, nous a dit Philippe Lioret. 10 racontent donc aujourd'hui que les auditions ont dérapé et qu'elles ont été abusées, notamment lorsque le réalisateur leur a donné la réplique. Julia était assistante casting sur le film. Julia est un prénom d'emprunt, nous avons modifié sa voix. Elle a assisté à la plupart de ses essais.
Il ne se prive pas de toucher la naissance des seins, même d'embrasser la naissance des seins, de se mettre dans le cou de la comédienne, de lui embrasser, enfin d'être à 2 mm de sa bouche. Puis en plus, c'est des moments qui durent. Et je me souviens des comédiennes tellement mal à l'aise d'être dans les bras de Philippe et de se faire tripoter comme ça. On les voit lutter, on les voit essayer d'utiliser ça pour le mettre dans leur personnage, mais c'était super malaisant, quoi.
Alors Philippe Lioret assume avoir donné la réplique dans une scène de tendresse, mais il n'y a jamais eu, selon lui, de gestes déplacés. Il faut que les règles qui encadrent les castings soient plus claires, dit de son côté Clémentine Poidatz, qui est membre de l'association des actrices, l'ADA, qui lutte contre les violences sexuelle dans le cinéma.
Il faut qu'on ramène toujours ça à la loi du travail. Un réalisateur ne donne pas la réplique à des actrices. Un réalisateur ne donne pas rendez-vous à des actrices à 20h, ne donne pas rendez-vous dans des hôtels. Nous, c'est ce qu'on demande, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place aussi, de mettre un cadre très clair. On vient faire un travail, on vient passer un entretien d'embauche, et voilà, ouais, qu'il y a un cadre clair au casting.
L'ADA milite pour qu'il y ait des coordinateurs d'intimité sur les castings, à l'image de ce qui commence à se faire timidement, il faut le dire, sur les tournages.
Merci Élodie Guéguin. Votre enquête à retrouver sur le site de France Inter, mais également samedi à 13h20 dans Secret d'Info avec de nombreux autres témoignages. En Italie, c'est une marque, un grand nom de la mode qui est dans la tourmente. Giorgio Armani, un groupe qui emploie près de 9000 salariés. Et bien, une des sociétés de ce groupe vient d'être partiellement placée sous administration judiciaire pour avoir exploité des travailleurs clandestins. Bruno Duvic, on vous retrouve en direct de Rome. Bruno, Armani employait ces migrants pour produire des sacs et d'autres accessoires de maroquinerie.
Oui, cela concerne une filiale et c'est vrai que les images diffusées par les carabiniers sont édifiantes. Des matelas à même le sol, des petites pièces sales et sombres qui semblent servir à la fois de salle de bain et de cuisine. Et dans l'atelier, on voit des machines dont on a retiré des dispositifs de sécurité pour accélérer les cadences. La Giorgio Armani Operations avait confié la production des accessoires à l'un de ses fournisseurs qui lui-même faisait appel à des sous-traitants employant chinois et pakistanais, essentiellement en Lombardie. Et la société milanaise n'ignorait pas la situation. En mars, un des carabiniers qui travaillait sur le dossier est tombé dans l'un de ses locaux sur un employé d'Armani qui venait contrôler la qualité de la marchandise et il a reconnu passer tous les 6 mois. Le code éthique dont se prévaut l'entreprise ne semble pas avoir pesé lourd. Le fournisseur officiel censé produire lui-même les accessoires n'avait aucun atelier. Cela n'avait pas été vérifié. Pour les juges, cela traduit une pratique assez généralisée dans la filiale. L'administrateur chargé d'assainir la situation est nommé pour un an.
Merci Bruno Duvic, correspondant d'Inter en Italie. Cette fois, ça devient concret, et pas uniquement parce que quelques panneaux avec des anneaux olympiques sont accrochés désormais dans les rues de Paris. Les compétitions des Jeux débutent dans 3 mois et demi et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, explique aujourd'hui comment touristes et habitants vont pouvoir circuler dans Paris pendant les épreuves. Bonjour Jean-Pierre Blimaud.
Bonjour Jérôme.
Alors, il nous faut distinguer 2 périodes. Il y a d'abord ce qui va se passer autour de la cérémonie d'ouverture.
Et oui, le 26 juillet et même dans les jours qui précèdent, des personnes qui seront amenées à pénétrer dans la zone de protection lors de la cérémonie devront s'inscrire sur une plateforme dédiée et cela à partir du 10 mai. On connaît la date depuis hier. La date a été révélée par le ministre de l'Intérieur. Une fois inscrites, les personnes passeront l'étape du contrôle de sécurité et recevront un QR code, condition nécessaire pour entrer dans les espaces concernés, accessibles par des checkpoints. Cela concerne 20 000 riverains, alors propriétaires de péniches ou invités ou habitants des alentours. Attention, le jour de la cérémonie, États-Unis, ce QR code ne sera pas nécessaire pour ceux qui ont un billet ou une accréditation, mais piéton ou non piéton, chaque personne devra présenter son laissez-passer, une pièce d'identité. Une fois cette formalité accomplie, eh bien la liberté sera totale, précise le ministre. Une précision, les QR codes pourront aussi être récupérés en mairie pour ceux qui n'ont pas Internet.
Ça vaut jusqu'au lendemain de la cérémonie d'ouverture, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui se passe après ? On circule librement ? On garde son QR code ?
Alors, on ne circule pas tout à fait librement, oui, parce que cette mesure s'applique en premier lieu à la cérémonie d'ouverture et dans la semaine qui précède. Mais ensuite, la fameuse zone de protection, qu'on peut qualifier de zone rouge, ne sera pas tout le temps activée pendant les Jeux. Elle variera selon les jours et aussi selon les endroits. Il n'y aura pas de quota, en revanche. Le nombre de personnes ne sera pas limité. Alors, la question des gares se pose. La gare de Lyon et la gare d'Austerlitz, proche de la Seine. La gare de Lyon n'est pas concernée par la zone de protection. La gare d'Austerlitz, oui, mais sera accessible par un corridor. Les voyageurs pourront donc y accéder. Il faudra mieux prendre le métro, indiquent les autorités, ne pas accéder par la surface. Et puis pour le musée du Louvre, il sera tout simplement fermé le 26 juillet, mais accessible les autres jours avec un billet et par un accès, encore une fois, hors périmètre situé hors zone de protection.
Merci Jean-Pierre Blimaud. Si vous n'avez pas tout retenu, on aura l'occasion évidemment de vous redonner toutes ces informations dans les jours qui viennent, début des compétitions dans 3 mois et demi. Vous nous parliez des policiers chargés de faire respecter ce dispositif. Jean-Pierre, ils sont concernés comme tous les fonctionnaires par le projet de réforme de la fonction publique. Projet du gouvernement, les concertations ont débuté ce matin. Le ministre Stanislas Guérini veut augmenter la part de la rémunération au mérite et faciliter les mutations d'une fonction publique à l'autre entre l'État, les collectivités et les hôpitaux. Le projet de loi doit être présenté à l'automne. Là, la cloche doit sonner ce soir, normalement. Les négociations entre syndicats et patronats ont repris ce matin autour de l'emploi des seniors. L'idée, c'est de tenir compte du relèvement de l'âge de départ à la retraite, 64 ans désormais, et de faire baisser le taux de chômage de ces seniors. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Alors, ces discussions sont donc prolongées. Ce qui bloque encore, c'est la question des indemnités qu'un salarié pourrait toucher quand il se lance dans une reconversion.
Oui, ou plutôt qu'il ne toucherait pas dans une volonté de simplifier peut-être un peu trop les reconversions passé un certain âge. Le patronat propose qu'à l'issue d'une formation à un nouveau métier, le contrat initial du salarié puisse être tout simplement rompu et qu'au final, cette rupture se fasse sans indemnité. Ligne rouge forcément pour Maxime Dumont qui négocie pour la CFTC.
Déjà, quand vous avez un certain âge et que vous devez vous reconvertir, vous avouerez que c'est quand même très anxiogène. Donc, il faut au moins qu'on ait ou pas la formation, nous puissions revenir dans l'emploi. Or là, on n'a plus du tout de parachute. C'est où on démissionne, où on a rupture du contrat de travail, où on a suspension du contrat de travail.
À tout ça, réponse ironique ce matin de Sophie Binet à la CGT. Au lieu de trouver des solutions pour les seniors, le patronat propose de multiples façons de mieux les licencier.
Pas d'accord non plus, Maxime, pour l'instant, sur ce qu'on appelle le CDI senior.
Ouais, dont on a changé le nom un peu pudiquement. Hein. On parle maintenant de contrat de valorisation d'expérience, contrat qui pourrait être proposé par un employeur au chômeur de plus de 60 ans. Et c'est finalement mieux qu'on ne l'appelle plus CDI pour Michel Boga, de toute façon opposé au principe pour force ouvrière.
Ça reste un CDI que de nom, parce que c'est un CDD, en fait, puisqu'on connaît le terme du contrat de travail, puisque ce sera votre départ à la retraite à taux plein, sauf que certains salariés, y compris à taux plein, souhaitent continuer à travailler pour pouvoir faire du bonus, c'est-à-dire aller jusqu'à 30% de majoration de leur retraite, et ce CDI senior les empêcherait de le faire.
On entend les positions, Maxime, est-ce que vous pensez qu'on va arriver à un accord ?
Écoutez, normalement oui, hein, les différentes parties ont tout intérêt de prouver au gouvernement qu'elles savent encore trouver des accords, on verra donc cet après-midi.
Et vous suivez tout cela avec attention, merci à vous Maxime Debs. Les agriculteurs voulaient que ça aille vite, ils vont devoir patienter. Les groupes d'opposition à l'Assemblée nationale demandent que l'étude d'impact qui a servi à rédiger le projet de loi agriculture, que cette étude soit renvoyée devant le Conseil constitutionnel. Demande acceptée ce matin. Les oppositions estiment que cette étude a été, de la part du gouvernement, insuffisante et insincère. La campagne pour les élections européennes, le scrutin se tient dans 2 mois, jour pour jour, et les listes s'étoffent. Peu à peu, visiblement, les partis sont sensibles au profil issu de la société civile. Ainsi, un ex-commissaire rejoint la liste du Rassemblement National. Il s'appelle Mathieu Vallée. C'est l'ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, Maxence Lambrecq. Ce nouveau candidat met en avant son parcours. Ma mère, d'origine espagnole, m'a élevé seule dans une tour de 15 étages avec des dealers au pied dans une cité de Lille. Je suis devenu gardien de la paix par les concours et le mérite. Voilà comment se présente Mathieu Vallée, 38 ans, qui en décembre dernier avait déjà perdu sa mission de porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police parce qu'il y avait déjà un doute sur ses liens avec le RN. Le canard enchaîné en avait parlé. Il a écumé les plateaux ces dernières années avec sa casquette de syndicaliste. Les formules sont déjà prêtes. En termes de sécurité, la Macronie, dit-il, c'est plein de promesses et plein de paresse. Ce ralliement intervient après ceux de Malika Sorel, essayiste de droite, et Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, la police aux frontières européennes. En interne, les mauvaises langues trouvent que tout cela fait ton sur ton, qu'il faudra aller chercher d'autres profils. Mais Jordan Bardella est ravi de ces prises de guerre qui s'avéraient plus rares il y a 5 ans. En face, la majorité n'avance aucun nouveau nom. La liste est affaire de crispation. Au RN, certains d'ailleurs s'inquiètent pour leur siège à force de voir débarquer ces nouveaux convertis.
Maxence Lambrec, et on reparle de ces élections avec notre invité à 13h30, le sondeur Jean-Daniel Lévy. Depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il est l'un des soutiens les plus fervents du mouvement islamiste. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui est allé jusqu'à qualifier le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de boucher de Gaza. Et bien dans le même temps, ce discours très virulent n'a pas empêché son pays, la Turquie, de continuer de commercer avec Israël, même si sur ce point, les choses sont en train de changer. Bonjour Marie-Pierre Vérot.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondante à Istanbul. Marie-Pierre, malgré les rodomontades, la Turquie a continué d'exporter vers Israël ces derniers mois.
Oui, les diatribes n'ont jamais été suivies d'actes. Sur ce plan, le pouvoir arguant que le commerce avec Israël ne nuisait pas à la cause palestinienne. Alors, c'est vrai que les exportations turques vers Israël ont diminué en 2023, mais elles ont marqué une accélération au cours des premiers mois de cette année et la situation devenait intenable pour le président Erdogan.
Donc, changement aujourd'hui, Marie-Pierre. Mmh. Le pouvoir décide de réduire les exportations parce que Erdogan est sous pression?
Oui, écoutez, cela fait des mois que ce commerce fait polémique en Turquie. L'opposition a dénoncé à plusieurs reprises l'exportation de matériaux qui pouvaient être utilisés par l'armée israélienne dans son effort de guerre. Des bannières appelant à rompre des relations honteuses avec Israël ont même été déployées lors de rassemblements du président Erdogan durant la campagne pour les municipales. Et puis le week-end dernier, une manifestation sur le même mot d'ordre a été violemment réprimée à Istanbul. Les images sont devenues virales. Le président turc, en fait, estime avoir perdu de précieuses voix lors des dernières élections en raison de la poursuite de ce commerce réalisé notamment par des sociétés détenues par des proches du pouvoir. Le parti islamiste qui lui a ravi la vedette a lui brillamment fait campagne sur la rupture de toute relation avec l'État hébreu tant que la guerre à Gaza se poursuivrait. Eh bien, Jérôme, c'est justement la condition qu'a donnée ce matin le ministre du Commerce turc pour lever les restrictions qui pèsent désormais sur 54 familles de produits comme l'aluminium, l'acier ou encore le kérosène.
Merci Marie-Pierre Vérot, correspondante d'Inter en Turquie. Un carton et une désaffection. Le carton, c'est pour l'exposition Marc Rothko à la Fondation Louis Vuitton à Paris. La rétrospective du peintre américain a connu une fréquentation remarquable. Plus de 800 000 visiteurs entre octobre et avril. Elle vient de s'achever et c'est donc un succès. Une désaffection, c'est celle des jeunes Français pour la lecture. Le constat n'est pas nouveau, mais il se renforce étude après étude. La dernière est réalisée par l'Institut Ipsos pour le Conseil National du Livre, qui a interrogé les 7-19 ans. Amélie Perrier, on vous retrouve. Alors, progression des mangas, essor des livres numériques, les webtoons aussi, hein, ces mangas à lire sur smartphone progressent. Mais enfin, le constat est là, les jeunes lisent de moins en moins.
Et oui, que ce soit pour l'école, les études, le travail ou dans le cadre des loisirs. Les indicateurs sont en baisse partout. Les enfants et les ados sont par exemple 81% à déclarer lire par goût personnel. Alors, si ça peut paraître presque honorable, c'est en recul et ça veut quand même dire aussi que près d'un jeune sur cinq ne lit pas du tout dans le cadre des loisirs. Chez les 16-19 ans, plus d'un tiers, 38%, ne prennent jamais un livre de leur propre chef. Le décrochage à l'adolescence se confirme. La différence entre garçons et filles également. Chez les 16-19 ans, trois quarts des filles lisent pour leur plaisir. Mmh. Seulement la moitié des garçons. D'ailleurs, toujours selon l'étude, ce sont les mères davantage qui lisent des histoires aux enfants et qui achètent des livres beaucoup plus que les pères.
Et donc, quand ils ne lisent pas, ils sont sans surprise devant les écrans.
Oui, on s'en étonne plus. Hein, mais là, les chiffres sont aussi impressionnants que préoccupants. Les jeunes Français passent en moyenne 19 minutes par jour avec un livre et 10 fois plus de temps devant leur smartphone, 3 heures et 11 minutes par jour. Et même quand ils lisent, une écrasante majorité des adolescents avouent faire autre chose en même temps, envoyer des messages, regarder des vidéos, aller sur les réseaux sociaux. Le web qui est quand même aussi un bon prescripteur. Plus de la moitié des 16-19 ans choisissent un livre après en avoir entendu parler sur les réseaux sociaux ou sur les conseils de booktubeurs, de bookstagrammeurs ou de booktalkers. Ce sont les nouveaux influenceurs spécialisés dans les livres sur TikTok, Instagram ou YouTube.
Voilà, pour terminer sur une note plus positive, merci Amélie Perrier. Riche agenda sportif en ce mardi, début de la Ligue des Champions de football, quart de finale aller, Real Madrid, Manchester City et Arsenal, Bayern Munich, ce sont les affiches du soir à partir de 21h. Et puis une finale en basket, celle de la deuxième Coupe d'Europe, l'Eurocoupe, une finale 100% française qui débute ce soir entre Paris et Bourg-en-Bresse, au meilleur des trois matchs, la première rencontre ce soir, 20h30 à Paris dans la nouvelle Arena construite pour les Jeux, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, toutes vos questions pour le sondeur et spécialiste de l'opinion publique Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive. On parle des européennes à tout pile deux mois du scrutin. On détaille les rapports de force avec vous. J'attends vos questions. 01 45 24 7000. 13h45, c'est notre feuilleton et nous suivons cette semaine la formation des chiens policiers. À 13h50, c'est la France. Bonjour Cyril Petit.
Bonjour Jérôme.
Où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Eh bien, de Pont-Vallin dans la Sarthe à Vénès dans le Tarn, en passant par Aubusson ou Bourganeuf dans la Creuse, on ouvre les boîtes à livres.
On va donc reparler des livres avec vous. Et puis notre carte blanche, toute cette semaine, au chanteur Raphaël. 5 jours, 5 titres qui ont marqué sa vie.
Par mon enfance, par les bras qui m'ont porté, par ton ventre, par tes hanches, rien ne pourra m'arrêter. Je ne saurais me passer de tes joies, de tes peines. Hey, hey, hey.
Aujourd'hui, Raphaël chante Jean-Louis Murat et on a hâte. À tout de suite.
France Inter, partenaire du film Le mal n'existe pas, du cinéaste japonais Ryusuke Hamaguchi.
Tiens, allez voir. Allez voir, karamatsu. Ce qu'on a mangé après.
Un père et sa fille vivent en harmonie avec la nature dans un village près de Tokyo. Le projet d'un site touristique va menacer cet équilibre fragile. Après Drive My Car, retrouvez Le mal n'existe pas le 10 avril au cinéma, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Des averses cet après-midi dans une ambiance plus fraîche.
Oui, on a encore du vent un peu partout, hein, jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Près de la Manche, ce vent entretient les fortes vagues. Attention au risque de vagues submersion pendant la pleine mer, hein, de la baie de Seine jusqu'au Pas-de-Calais. Des débordements importants de la Seine sont attendus aussi sur l'Eure et la Seine-Maritime en vigilance orange pour les crues. Sur la majorité du pays, des averses attendues, entrecoupées d'éclaircies plutôt belles. C'est sur le sud-ouest et le centre-val de Loire que les averses seront les plus nombreuses, parfois avec un coup de tonnerre. En montagne, quelques averses de neige autour de 1200 mètres, plutôt 2000 mètres sur le sud des Alpes. Et puis on a des températures qui baissent nettement, souvent 10 à 12 degrés de moins qu'hier, parfois davantage. 30 degrés à Grenoble hier après-midi, on en attend 13 cet après-midi. De manière générale, comptez 12 à 15 degrés, encore 17 à 19 en Méditerranée, 22 en Corse. Demain, on aura plus d'éclaircies, quelques averses des Alpes à la Corse, sur la Nouvelle-Aquitaine aussi, et quelques gouttes sur le Nord-Ouest.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Ce sera dans deux mois, jour pour jour, le 9 juin, les élections européennes dans les 27 pays de l'Union. Scrutin à la proportionnelle. Il n'y aura pas de second tour pour élire les 720 députés européens. Ils seront 81 à représenter la France. On a déjà à deux mois du vote une idée de l'état de l'opinion publique française. Une photo, comme on dit, qui ne présage en rien, c'est toujours bon de le rappeler, de ce que seront les résultats, mais qui nous donne tout de même une bonne idée des rapports de force actuels. On va les détailler avec vous, Jean-Daniel Lévy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur délégué de Aris Interactive France qui réalise des enquêtes d'opinion, des sondages. Vous en êtes le directeur du département des stratégies politiques et d'opinion. Les auditeurs peuvent vous interroger, eux aussi, directement. 01 45 24 7000. ils le font également via l'application France Inter. Jean-Daniel Lévy, avant de rentrer dans le détail, il faut rappeler que cette élection va être la première depuis deux ans, depuis les élections législatives qui ont apporté une majorité, certes relative, mais majorité tout de même à Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire que ce vote, ça va être un vote sur le bilan d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est ça l'enjeu?
Ça sera évidemment un vote qui sera teinté d'ambiance nationale, mais les Français en général répondent à la question qui leur est posée. Ils sont bien plus que ce qu'on croit intéressés par les grands enjeux internationaux. On le voit d'une manière générale, pas uniquement lorsqu'il y a la crise telle qu'on peut le voir en Israël d'un côté ou également en Russie, mais qu'ils se disent au final quel mandat allons-nous confier à nos députés européens. Et le premier aspect qu'ils regardent, ce sont les propositions et le positionnement qu'ils imaginent que les députés européens vont adopter une fois qu'ils seront à Bruxelles ou à Strasbourg.
Vraiment, le rôle des députés, de ce qu'ils vont faire dans les prochaines années, mais ça veut dire qu'à posteriori, ils regardent aussi ce qu'ils ont fait les années précédentes.
Alors, ils regardent pas forcément, mais ils ont une petite idée globalement où ils se disent que ils imaginent est-ce que telle force politique est globalement favorable à l'Europe, est-ce qu'elle va être critique à l'égard de l'Europe, est-ce qu'elle va avoir un projet clair à l'égard de l'Europe. Si vous prenez les dernières élections européennes, par exemple, vous aviez des Français qui étaient plutôt favorable à la construction européenne et qui avait voté nettement pour la liste qui était soutenue par le président de la République. Vous aviez des Français qui étaient critiques à l'égard de l'Union européenne et qui avaient voté nettement en faveur de la liste qui était portée à l'époque par le Rassemblement national. Et puis il y avait également des Français qui se disaient, dans un moment où on parlait beaucoup plus d'ailleurs qu'aujourd'hui des thématiques écologiques et environnementales, ça vaut le coup de mettre de l'écologie le plus possible au sein des textes qui sortiront du Parlement européen. Et c'est une des raisons pour laquelle la liste de Yannick Jadot, écologiste, avait recueilli 13% des suffrages.
Donc, vote national, vous dites pas forcément.
Alors, ça joue un deuxième aspect, c'est-à-dire que ça joue.
Deuxième ligne.
C'est-à-dire une deuxième ligne, c'est-à-dire que si en complément on peut adresser un message à l'égard d'Emmanuel Macron, on va pas se priver. Et puis, on a également des électeurs qui vont se dire qu'ils sont quelque peu désabusés ou critiques à l'égard du président de la République et qui vont adopter une forme de vote par l'abstention, c'est-à-dire qu'il déclare « je reste chez moi, je reste volontairement chez moi, j'ai pas forcément envie de voter pour une autre force politique, mais à l'heure actuelle, ce qui est fait par le président de la République ou ce qui est proposé par la liste de la majorité présidentielle ne me suffit pas suffisamment pour que je puisse me déplacer, que ça vaut le coup de me déplacer pour aller voter. »
Est-ce que cette campagne intéresse, pour l'instant, il reste encore deux mois, hein, c'est très très long, mais est-ce que pour l'instant cette campagne intéresse les Français? Et si la réponse est négative, est-ce qu'on est finalement sur un phénomène assez classique pour une élection européenne?
Alors, vous avez la réponse dans votre question. Donc, les Français ne sont pas passionnés par les élections européennes. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas à l'heure actuelle sur les différentes informations qui peuvent leur être délivrées. Ils écoutent, ils entendent, et on sait qu'en général, ce sont typiquement le type d'élections où au cours des 15 derniers jours, on va vraiment être amené à se poser la question. On a qui plus est aujourd'hui une offre électorale qui est loin d'être complète, et on sait que c'est au cours du mois de mai qu'on va connaître l'offre électorale réelle. On peut rappeler qu'au cours des dernières élections européennes, plus de 30 listes étaient proposées au suffrage des Français.
On verra combien elles sont au final sur la ligne de départ. Pour l'instant, dans la photo qui nous est donnée par les différents instituts de sondage, la liste qui ressort, c'est celle emmenée par Jordan Bardella pour le Rassemblement National, autour de 30%. Ce serait un score historique pour l'extrême droite en France. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que ça revient à ce que vous nous disiez à l'instant, Jean-Daniel Lévy? Les Français sont défiants vis-à-vis de la construction européenne. Ça se traduirait dans le score du RN?
Absolument. Il y a une forme de défiance à l'égard de la construction européenne. Il y a une interrogation sur les conséquences concrètes de ce qui peut être décidé à Bruxelles et à Strasbourg pour le quotidien des Français. Il y a également, d'une manière tendancielle, une progression du Rassemblement national. On peut rappeler que c'était la première force politique aux élections européennes de 2014, que c'était la première force politique aux élections européennes de 2019, que Marine Le Pen, deux fois de suite, a été qualifiée au deuxième tour de l'élection présidentielle, qu'ils ont eu plus de 80 députés élus à l'Assemblée nationale. Donc il y a un mouvement global de soutien à l'égard du Rassemblement national. On peut ajouter deux aspects. Une image aussi bien de Marine Le Pen que de Jordan Bardella qui est élevée. Ils font partie des personnalités les plus appréciées de la part de nos compatriotes. Et puis enfin, une thématique qui est une thématique du pouvoir d'achat qui constitue aujourd'hui le premier enjeu de motivation de vote des Français, qui l'articule avec les grandes décisions telles qu'ils les perçoivent prises au niveau européen. Et aujourd'hui, la formation politique qui apparaît à leurs yeux la plus à même de pouvoir répondre aux enjeux du pouvoir d'achat, c'est le Rassemblement national.
Est-ce que le RN attirerait aussi un vote sanction envers Emmanuel Macron? Moi, je suis allé sur le site du RN hier et vous pouvez lire en gros très vite sur la page d'accueil pour les gens qui veulent adhérer, je soutiens la première force d'opposition à Emmanuel Macron. C'est un des premiers slogans qui saute aux yeux. Est-ce que c'est l'un des arguments électoraux, si ce n'est le premier?
Alors, c'est la combinaison de différents éléments. C'est-à-dire qu'en fait, on a la perception que le Rassemblement National est clair par rapport à ses grands enjeux européens. Et quand bien même cette formation politique a été amenée à changer de position au cours de ces dernières années, il y a la perception que ce sont ceux qui veulent redonner le pouvoir au peuple, faire en sorte qu'il puisse y avoir des nations qui soient plus fortes d'une manière générale que l'Union européenne. Qu'il y a un mouvement également au niveau européen qui va globalement dans ce sens-là et que ça viendra accréditer la thèse que un pouvoir, entre guillemets, qui apparaît comme étant obscur au niveau de l'Europe, soit quelque peu contrecarré par la puissance du Rassemblement national. Et si, évidemment, en plus, on peut adresser un message fort à l'égard de l'exécutif et notoirement Emmanuel Macron, les électeurs n'ont pas envie de se priver en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité, en matière d'immigration, en matière de terrorisme, dont on voit que ce sont les principales motivations de vote des électeurs du Rassemblement national.
Il y a eu beaucoup d'attaques vis-à-vis du Rassemblement national sur les liens passés avec la Russie. Marine Le Pen s'était affichée notamment avec Vladimir Poutine. Il n'y a plus de soutien depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie de la part du RN. Mais enfin, les attaques se poursuivent. Ça porte pas dans l'opinion publique.
Ça ne porte pas du tout. On a même pu voir, par exemple, que quand bien même la Russie a envahi l'Ukraine, que quand bien même Marine Le Pen avait fait part d'une forme de proximité avec Vladimir Poutine, celle-ci n'a pas baissé dans les intentions de vote au cours de la dernière élection présidentielle et cela n'a pas empêché non seulement de pouvoir obtenir le meilleur score jamais obtenu par l'extrême droite au premier tour de la présidentielle, mais également plus de 40% des suffrages au deuxième tour de la dernière élection présidentielle. Les Français disent, et notamment ceux qui sont en regard positif à l'égard du Rassemblement National, peut-être que ça s'est produit. Mais est-ce que les autres forces politiques sont exemptes de formes de critiques ou de financements qui apparaissent comme étant occultes? Pas véritablement, donc ça ne vient pas véritablement avoir d'impact en matière de motivation de vote.
Une sorte de relativisme finalement sur cette question de la part des électeurs qui sont, en tout cas pour ceux qui vous disent aujourd'hui qu'ils vont voter pour le RN dans deux mois, assez sûrs de leur choix.
Assez sûrs de leur choix, c'est une forme de nouveauté, en tout cas par rapport à ce que l'on pouvait voir dans la sociologie historique du Rassemblement National. On avait tendance à penser que les électeurs qui étaient les plus à droite sur l'échiquier politique avaient tendance à se décider véritablement au dernier moment. Ce sont aujourd'hui ceux qui apparaissent comme étant les plus convaincus de leur vote, ceux qui déclarent qu'ils ont le moins l'intention de ne pas aller voter, ceux qui sont le moins hésitants en nous disant de toute façon je vote pour le Rassemblement National, c'est absolument certain et je n'ai pas l'intention de changer d'intention de vote. Et puis également des électeurs qui savent pertinemment que le Rassemblement National peut arriver en tête de ces futures élections et donc cela leur fournit une motivation supplémentaire de se déplacer et de voter pour la liste conduite par Jordan Bardella.
Un dernier mot sur le RN. On a beaucoup de messages, c'est Michel qui nous dit, il parle de la progression de l'extrême droite, il nous dit sa banalisation à travers les médias n'aide en rien. Mireille qui nous dit le RN omniprésent dans les médias, ou encore André, dans les médias, les journalistes ne parlent que d'eux. Est-ce que vous constatez, Jean-Daniel Lévy, que le RN, par rapport à des élections précédentes, a beaucoup plus voix au chapitre là, dans cette campagne?
Alors, il a indéniablement beaucoup plus voix au chapitre. On peut rappeler d'ailleurs qu'ils ont près de 90 députés à l'Assemblée nationale. On peut rappeler qu'ils
donc,
ont...
Mécaniquement, donc forcément, les médias notamment
ils sont plus identifiés. Ouais. Absolument. Ils sont même, quand vous interrogez les Français sur le rôle qui est joué de la part des parlementaires à l'Assemblée nationale, notamment, que la force politique qui est considérée comme étant la plus satisfaisante aux yeux des Français, c'est le Rassemblement national. Et puis, effectivement, pour reprendre le terme que vous avez utilisé, une forme de banalisation. C'est-à-dire qu'on peut voir que, en dehors de l'exposition, en dehors du jugement des Français à leur égard, que les Français ne se mobilisent que très peu contre le Rassemblement national. Dans les circonscriptions où le Rassemblement national était présent au deuxième tour des dernières élections législatives, nous n'avons pas assisté à un sursaut de mobilisation pour faire, entre guillemets, barrage au Rassemblement national.
Alors l'arme anti-Jordan Bardella de la part d'Emmanuel Macron, c'était censé être Gabriel Attal, nommé Premier ministre il y a 3 mois. Pour l'instant, la candidate qui mène la liste de la majorité, Valérie Ayé, est créditée autour de 17% d'intention de vote selon les enquêtes. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas pour l'instant, l'argument Gabriel Attal, si je puis dire.
Alors l'argument Gabriel Attal, on va dire, a été
ou alors c'est
utilisé.
Pas sur le bon, on n'est pas sur le bon terrain.
On n'est peut-être pas, sur le bon moment, si vous me permettez. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore pleinement entré en campagne. On sait que ça sera plutôt le cas au cours des 15 derniers jours ou 3 dernières semaines. À l'heure actuelle, on n'est pas face à des Français qui ont envie de se dire est-ce qu'on préfère Gabriel Attal ou est-ce qu'on préfère Jordan Bardella. L'image de Jordan Bardella est dépassée quelque peu par le regard qui est porté à l'égard du Rassemblement National, avec des Français qui apprécient, en tout cas pour une petite majorité, cette formation. formation politique et que celle-ci apparaît comme étant la plus encline déjà à pouvoir parler des préoccupations du quotidien de la part de nos compatriotes. C'est une vraie nouveauté que le Rassemblement national incarne la première force politique à apparaître comme étant crédible sur la question du pouvoir d'achat. C'est la première préoccupation de nos compatriotes. Aujourd'hui, le Rassemblement national n'est pas cantonné à la question de l'immigration ou de la sécurité comme c'était le cas par le passé, mais arrive à élargir son socle. Quand on a le Rassemblement national qui parle, on a des Français qui nous disent on n'est pas forcément d'accord avec eux, mais au moins on les comprend et on pense que les thématiques qu'ils mettent en avant nous parlent à l'égard de notre quotidien. C'est le cas pour les catégories populaires, c'était le cas par le passé, mais une vraie nouveauté qu'on a vu apparaître aux dernières élections européennes, ça touche également des populations qui sont relativement âgées, des seniors, qui jusqu'à présent refusaient de voter pour les formations politiques les plus à droite sur l'échiquier politique.
Et voter plutôt pour Emmanuel Macron.
Absolument, ou pour les Républicains, et qui là disent aujourd'hui, on trouve que les propos qui sont tenus de la part de Jordan Bardella et du Rassemblement National, ont un écho positif à nos oreilles.
Même s'il y a assez peu de propositions concrètes finalement aujourd'hui.
Oui, c'est une question de posture. C'est une question d'image. Une question de posture, une question d'image, une question d'attitude.
Alors, on sait que le chef de l'État va s'impliquer de plus en plus. Il reste 2 mois de campagne et sa fonction va lui permettre aussi. Est-ce que ça peut changer la donne et jusqu'à quel point, Jean-Daniel Lévy?
Alors, il y a plusieurs aspects qui peuvent changer la donne. Si on prend en fait sur l'histoire des élections européennes, au cours du dernier scrutin en 2019, l'implication d'Emmanuel Macron avait eu une incidence nette et avait permis, si vous me permettez l'expression, de dégeler un électorat qui n'était pas certain de se déplacer pour aller voter et qui s'était dit, tiens, ça vaut le coup d'aller voter en faveur de la liste qui est soutenue par le président de la République. Ça avait permis également de bouger un peu les lignes et d'électeurs qui avaient plutôt l'intention de voter pour la liste soutenue par les Républicains, c'est-à-dire la droite, en se disant, au final, le plus efficace, ça nous apparaît de voter pour la liste soutenue par le président de la République. Et puis également, une question d'implication. On l'a dit tout à l'heure, nous avons des électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron à la dernière présidentielle, qui aujourd'hui ne comprennent pas tout à fait ce qui est fait par le président de la République, qui peuvent être déstabilisés, soit par la loi immigration d'un côté, soit par les positions qui sont adoptées concernant la loi chômage à l'heure actuelle, qui ont plutôt l'intention de vouloir rester chez eux et qui se disent peut-être que ça vaut le coup d'entrer en campagne et donc de voter pour la liste qui est soutenue par le président de la République. Et puis peut-être un dernier aspect. La première motivation de vote aujourd'hui des électeurs de la liste conduite par Valérie Hayé, donc c'est-à-dire soutenue par le président de la République, c'est la guerre en Ukraine. C'est une spécificité de cet électorat-là. On n'a aucune idée de la manière dont les Français vont percevoir les enjeux à l'est de l'Europe au cours des 2 prochains mois. Et on peut faire l'hypothèse que si jamais cette thématique-là devait prendre plus de place dans les préoccupations de la part de nos compatriotes, que cela pourrait avoir une incidence et faire remonter dans les intentions de vote la liste soutenue par le président de la République.
L'un des paris du candidat soutenu par le Parti Socialiste, Raphaël Glucksmann, c'est d'attirer justement des déçus d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça fonctionne pour l'instant? Est-ce que c'est ce qui explique qu'il soit pour l'instant le troisième homme, si je puis dire, autour de 12-13%?
Absolument, ça participe assez nettement et puis ça participe également d'une ambition qu'il donne le sentiment d'avoir pour l'Europe. Si on est face à des Français qui se disent on a envie de voter pour quelqu'un qui a une ambition européenne, Raphaël Glucksmann globalement arrive à l'incarner. La manière dont les Français le voient, ils ne l'ont quasiment pas vu sur la scène politique nationale. Ils ne le voient pas sur les grands débats qui peuvent animer la gauche sur ces histoires de recomposition ou sur ce que peut être la NUPES. Raphaël Glucksmann, au cours de ces 5 dernières années, est apparu sur les grandes thématiques européennes, notamment autour de la question des droits de l'homme, incarnée notamment par la question des Ouïghours. Et donc on se dit, il a une forme de sincérité dans son engagement et ça plaît à un électorat qui a voté pour Emmanuel Macron, qui est quelque peu déstabilisé à l'heure actuelle et qui se dit au moins, là, nous avons un candidat, une force politique qui ne nous parle pas de politique nationale uniquement mais qui va également nous dire concrètement ce qu'il souhaite faire si jamais il était député européen.
Et voilà pourquoi, pour l'instant, en tout cas dans les intentions de vote, il domine notamment la liste des Insoumis et la liste des Verts puisqu'il y a plusieurs listes à gauche. On aura l'occasion d'en reparler dans ce 13-14. Je rappelle que tout cela, ce sont des intentions de vote, tout cela peut bouger, évidemment.
Et ça va bouger.
Dans les 2 mois qui viennent, j'ai une petite question, j'en ai quelques-unes d'ailleurs, coulisses, si je puis dire, à vous soumettre, Jean-Daniel Lévy. Comment sont rémunérés les instituts de sondage? Comment ça fonctionne, finalement? Nos auditeurs se demandent, comment vous arrivez à travailler?
Là, en l'espèce, cette enquête nous est payée par 3 partenaires qui sont M6, RTL et Challenge. La plupart des enquêtes qui sont des enquêtes publiées sont des études qui sont payées par des clients. Mais vous savez, la plus grosse de notre activité est une activité confidentielle et donc qui vise à connaître la stratégie pour les organisations marketing et également les acteurs politiques.
Merci pour cette transparence et merci d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14. 13h47. Notre feuilleton, nous sommes toute cette semaine avec les chiens de la police nationale qui repèrent les drogues ou les explosifs. On se demande notamment comment se crée le duo entre un chien et son conducteur et les réponses dans ce deuxième épisode, toujours au centre de formation de Canécluse.
Alors, je m'appelle Yann, je suis formateur au Centre National de Formation des Unités Cynotechniques, formateur de recherche de matières, donc explosives, stupéfiants, armes et munitions. Alors, le chien, la psychologie, on la connaît bien, puisqu'on l'a depuis un certain nombre de semaines. Et le conducteur, on le reçoit en entretien individuel au début de sa formation. On échange avec lui sur son expérience, sur ses capacités, sur sa façon d'appréhender la spécialité. Rien n'est laissé au hasard. On essaye d'établir le binôme en fonction des caractéristiques psychologiques du conducteur et du chien. Si on a un chien qui est extrêmement nerveux et extrêmement speed, on va plutôt privilégier un conducteur calme, par exemple.
Donc, vous allez pouvoir voir nos collègues en action de formation. Le formateur Yann et la stagiaire. Donc on vous laisse le relais, on se retrouve après.
Assis. Reste.
Le principe général, c'est d'associer pour le chien le jeu et le plaisir à l'odeur de l'explosif. On associe un jouet avec un son qui s'appelle le clicker que vous entendez là. À chaque fois que le chien sera en contact olfactivement avec cette matière, il sera récompensé par le son et par le jeu. Et on va augmenter ces phases au fur et à mesure jusqu'à obtenir un marquage sur le blocage du chien à proximité immédiate de la matière détectée.
Assis. Reste. Tu cherches.
Alors, on a une ligne composée de 8 boîtes en inox avec des couverts qui sont perforés. Dans ces boîtes, on va placer une matière explosive. Donc, on va faire passer Kita, la chienne de Sarah, qui est en formation actuellement en stage de conducteur de recherche de matière explosive. Donc la chienne et le conducteur devront détecter la boîte piégée.
Voilà le loot. Ça fait bien.
Alors, une fois qu'il a trouvé l'explosif, qu'il a pris la position assis ou couché, il est récompensé à l'aide d'un objet de jeu, ça s'appelle un boudin, dans lequel il va pouvoir mordre et se défouler, qui est une petite proie avec laquelle il va jouer avec son conducteur.
Très très bien, ça suffit. On téléporte. C'est bien loot. C'est refait.
Je m'appelle Sarah, j'ai 31 ans et je suis en formation pour être conductrice de recherche de matières explosives avec Kita. Alors Kita, c'est une petite berger belge malinois de 3 ans et demi et ça fait 10 semaines actuellement qu'on travaille ensemble. C'est ma première chienne de recherche en matière explosive, oui. Alors nous, on va nous apprendre à travailler avec le chien qui est déjà plus ou moins formé à la détection des matières explosives. Et du coup, à savoir lire notre chien, c'est très important dans notre spécialité. C'est savoir lire son chien, notamment détecter les changements de comportement sur les recherches. Faire en sorte que ça reste dans tous les cas toujours du jeu pour elle.
On refait.
Bien sûr, il y a de l'attachement, il faut avoir de l'attachement. Il faut oublier que nous, en tant qu'équipe cynophile, on travaille quand même avec du vivant, donc il faut que le chien ait confiance en nous, il faut qu'il puisse se fier à nous, donc il y a un réel attachement. Il y a une vraie confiance réciproque. Moi, je dois lui faire confiance quand elle est dans sa recherche et qu'elle marque des produits, et de même titre qu'elle, elle doit me faire confiance également. Pour ma part, Kita reste en chenil donc pour la nuit, et après, tous les jours, elle a ses moments de détente, ses moments de travail, ses moments de jeu avec moi.
Sarah et son chien Kita, rencontrés par Ariane Grissel, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, 13h51, le mardi, Cyril Petit du journal Ouest France. Vous nous racontez ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, on ouvre les boîtes à livres.
Et alors que le Festival du Livre de Paris aura lieu ce week-end, on part à Pont-Vallin, 1700 habitants dans la Sarthe. 8 adolescents de 15 et 16 ans viennent de réaliser une boîte à livres avec des matériaux de récupération Liton dans Ouest France. Ils ont tous signé à l'intérieur et en ont profité pour la remplir. De livres, évidemment, car c'est le principe de ces micro-bibliothèques gratuites. Chacun peut déposer et emprunter des ouvrages. Objectif, favoriser l'accès à la culture et encourager l'économie circulaire dans les villes et dans les villages. C'est un endroit qui permet de créer du lien social complète auprès de France Bleu, la mère de Trois-Fonds, 122 habitants dans la Creuse.
Alors, que sait-on, Cyril, de l'importance de ces boîtes à livres en France ?
Eh bien, depuis 2017, leur nombre a été multiplié par 5. On en compte environ 10 000 selon le site boitealire.com. Il y en a partout et on en installe chaque semaine. Ces derniers jours, de nouvelles boîtes ont été inaugurées à Vénès dans le Tarn, à Alex dans la Drôme ou encore à Autis en Seine-et-Marne.
Et est-ce qu'on sait qui les utilise ?
Eh bien oui, une enquête a été publiée en janvier par Claude Poissonneau, sociologue et enseignant-chercheur à l'IUT Métiers du Livre de Nancy. Je l'ai appelé, voici quelques enseignements. Le public est majoritairement féminin, les hommes recherchent plutôt des livres précis, là où les femmes viennent davantage sans idée de départ, laissant plus de place au hasard, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Les femmes sont aussi davantage dans le partage, et puis selon cette étude réalisée auprès de 1300 utilisateurs, 60% du public des boîtes à livres a entre 35 et 64 ans, et les trois quarts des usagers affirment utiliser les boîtes à la fois pour trouver et pour déposer des livres, donnant donc. Et puis, vous allez me demander, Jérôme, quels sont les livres qui s'échangent
le plus ? Oui, qu'est-ce qu'on trouve ? Quel type de livres on trouve dans ces boîtes ?
Eh bien, d'abord, les romans, au sens large, devant les polars et les thrillers, les BD et livres jeunesse, et puis les biographies.
En tout cas, ces boîtes prennent toutes les formes.
Oui, il n'y a aucune standardisation, on relève Claude Poissonneau. On peut dire que chacune est unique. Partons en Eure-et-Loire, Jérôme. Le quotidien L'Éco-Républicain a déniché des boîtes à livres insolites. Dans le département, on en retrouve dans une cabine téléphonique désaffectée, dans un abri de jardin, dans une boîte aux lettres géante, dans une ancienne armoire et même dans une cabine téléphonique anglaise toute rouge.
Elle est rouge, oui.
Évidemment, ça se passe à Nogent-le-Rotrou et on n'y découvre pas forcément du Shakespeare à l'intérieur, hein, d'ailleurs. Et puis, partout, des boîtes à livres ont élu domicile dans des arbres, des arrêts de bus, des clapiers à lapins ou des frigos. L'imagination n'a pas de limite. Et beaucoup parlent même d'un effet pochette surprise, à la fois dans la boîte et dans l'ouvrage choisi. On y trouve des pépites, comme ce livre sur le street artiste C215, mais aussi un cafard séché dans un livre.
Un cafard
sourit, une utilisatrice à Lorient dans le Morbihan.
Pourtant, Cyril, il y a un problème. Certaines de ces boîtes vieillissent mal, d'autres sont dégradées, voire pillées.
Oui, mais pas tant que ça. Alors, certaines méritent en effet une rénovation, mais je n'ai trouvé que peu de dégradation. Il y a bien quelques exemples de personnes qui se servent pour vendre les ouvrages chez les bouquinistes, mais c'est marginal, le livre reste sacré. Citons tout de même ces alertes lancées début février sur les réseaux sociaux par deux communes de la Creuse. À Bourganeuf, au moins 200 ouvrages ont été dérobés en deux mois. À Aubusson, le maire parle avec ironie d'un lecteur compulsif, un lecteur voleur qui a oublié que les boîtes à livres, c'est d'abord du partage.
Voilà, vous n'êtes pas obligé d'emprunter tous les livres en même temps. Merci Cyril Petit. On pourrait trouver dans l'une de ces boîtes un roman du chanteur Raphaël, qui est aussi écrivain et qui est donc avec nous toute cette semaine dans ce 13-14 pour une carte blanche musicale. Aujourd'hui, Raphaël nous parle d'un chanteur qui l'a conduit vers la chanson française.
Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une chanson de Jean-Louis Murat qui s'appelle Le Charme. J'ai découvert cette chanson quelque part dans les années 90. Je m'intéressais pas beaucoup à la chanson française. J'aimais bien les rockers en anglais ou américains. Et on me fourgue de force un album pour la fête de la musique, un disque de reprise de chansons françaises. Et à un moment donné, dans ces pistes, il y a une chanson, voilà, qui est Le Charme de Jean-Louis Murat, qui est juste un piano-voix. Et je suis vraiment ébloui par la beauté de cette chanson. Et c'est une des chansons qui me donne envie d'écrire en français.
Oh, quel est ce charme? Par un dieu éparpillé, un nouveau langage, une voile qu'on a gonflée, qu'on soulage sur les blés, quand tout vers toi m'entraîne. Oh, que je t'aime.
C'est une chanson, je trouve, qui a vraiment quelque chose de sensuel, quoi. Il y a cette chose de... Il y a à la fois une ode à la maternité, je trouve, dans cette chanson magnifique, avec cette phrase « Par mon enfance, par les bras qui m'ont porté ». Et il y a aussi une ode à la sensualité amoureuse, quoi. Par ton ventre, par tes hanches, enfin, il y a quelque chose, voilà. Et en même temps, il y a toute cette chose d'une terre gorgée de soleil. Les images, elles sont d'une simplicité enfantine, mais elles sont éblouissantes. Elles me parlent beaucoup, voilà, ça me parle beaucoup.
Et par mon enfance, par les bras qui m'ont porté, par ton ventre, par tes hanches, rien ne pourra m'arrêter. Je ne saurais me passer de tes joies, de tes peines.
Et je vais vous chanter donc ce morceau qui s'appelle Le Charme. Une version très très similaire à l'original, piano-voix. Voilà.
Oh, quel est ce charme par un dieu éparpillé, un nouveau langage, une voile qu'on a gonflée, qu'on soulage sur les blés, quand tout vers toi m'entraîne. Hey, 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 hey. Que je t'aime. J'aurais pour toi la tendresse du pommier, le cœur de l'orage et des mains de cordonnier, des villages en plein été, des pays, un domaine. Hey, 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 hey. Que je t'aime.
C'est quand même une vie entière dédiée à la beauté, à la poésie, à la liberté. Voilà, c'est à ça que je pense quand je pense à Murat. Et on se dit à demain pour de nouvelles aventures.
Disons-nous à demain, Raphaël, réalisation de cette carte blanche signée Stéphane Le Guenec.